mise sous tutelle, elle la fermait. Fille, épouse, mère, on les coinçait dans un foyer qu'elle devait tenir, des enfants qu'elle devait élever, une marmite à faire bouillir parce que le mari, faut bien le nourrir, tiens. Bizarrement, ça ne leur allait plus. Pendant des siècles, elles s'étaient tues, mais elles se sont mises à l'ouvrir et ce jusqu'au point de bascule. Elles ont obtenu la pilule, un enfant si elles le voulaient, elles avaient le droit de travailler indépendantes financièrement. Elles ont enfin pu se barrer, le divorce est facilité, le mariage devient compliqué. Les liens se font et se défont, le sacrement n'est plus sacré et il est même satanisé. Quand deux personnes de même sexe à leur tour veulent se marier, oh mon Dieu, il paraît qu'ils s'aiment, qu'ils voudraient même faire famille, un garçon avec un garçon et une fille avec une fille, font des enfants, deviennent parents. Quand on vous dit que tout fout le camp, un papa et une maman, c'était bien ça l'idée. Pourtant, c'était rangé, c'était genré, il y avait un chef, c'est arrangeant, c'était le modèle dominant. Ouais, mais à force d'être nucléaire, elle a fini par exploser, décomposer, recomposer. Elle a été Nagasaki à force d'être Hiroshima. En mille morceaux, on l'éparpille, oui, on l'éclate, la famille. La voilà monoparentale et maintenant homoparentale. À ce cri, crierait au scandale. Je dirais, pas de panique, ça fait flipper la liberté. Mais quand le modèle est unique, on a du mal à respirer. On était quand même à l'étroit. Aujourd'hui, au moins, on a le choix.
France Inter. Julia Foïs. Pas son genre.
Le soleil vient de se lever. C'est notre grand et sa fiancée.
Pardon, l'ami du petit déjeuner, si j'étais un petit peu claqué le beignet, mais voilà. En fait, fallait que tu te testes parce que tu dis quand même des énormités. D'abord, notre grand, aujourd'hui, il y a quand même des chances qu'il vienne plutôt avec son fiancé. Et puis, on n'est plus tous blonds, tous blancs. Tu vois, c'est plus forcément un papa, une maman, quatre enfants. Comment? Pourquoi? Et ça change quoi? Ils vont nous le dire. Agnès Balck et François de Saint-Gly, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes respectivement historienne et sociologue, tous les deux spécialistes du couple et de la famille. Beau sujet, vaste sujet, mais d'abord petit pas de côté avec une petite transgression pour bien lancer l'émission. Qu'est-ce qui, chez vous, chez l'un, chez l'autre, pourrait faire mauvais genre? Un petit interdit que vous aimez cultiver, Agnès Balck?
L'excès.
En tout genre, quel
en tout
qu'il
genre,
soit.
Quel qu'il soit.
Surtout si c'est par commandé.
Exactement.
Ok, et François de Saint-Gly? Qu'est-ce qui fait mauvais genre chez vous, à part tout?
Mauvais. C'est... Mais en même temps, je suis gêné parce que j'aime. Pour l'art, par exemple, je trouve que les choses de mauvais goût m'irritent au plus haut point.
Ah.
Donc je suis plutôt pour le bon goût.
Donc non, vous êtes plutôt, c'est votre petit côté bon chic, bon genre.
Oui, exactement. C'est
je
bien.
Pense que les auditeurs se rendront compte au cours de l'émission.
Ah non, mais on peut être incohérent. Bah alors, je vais dire plutôt que l'excès, voilà. Je vais dire l'incohérence. Voilà.
Allez, vive l'excès, vive l'incohérence. Ici, on aime beaucoup. Lui aussi, on l'aime bien, à cheval, sur les genres. Un peu hybride, un pied dans le rap, un autre dans le champ, là où on ne l'attend pas souvent. C'est l'homme pâle, évidemment.
Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi? Pourquoi je serais différent des autres? Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça, j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de fin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh, j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard morceau. Sauf que maintenant, j'ai plus 19 ans, et je crois bien que les gens bizarres du showbiz disent que mes disques se vendent. Yes, concert complet dans toutes les villes de France. On était déjà passé par là en van. Sur scène, je donne tout, j'en ai 2000 devant. Mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seul dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. Seul à 3h du mat, dans un bar on peut reconnaître pâle. Sous ma poitrine c'est plus froid qu'en Islande. Dans mon caleçon c'est plus chaud qu'au Népal. Je fais que déconner, pardon. Chaque semaine je couche avec une nouvelle fille que je connais pas. Est-ce que j'essaie de me venger? Me venger de toutes ces années où je plaisais moins aux filles que les mecs dérangés. Où je me sentais partout étranger. Où je servais qu'à nourrir leur ego quand c'est pétasse. Ouais, aujourd'hui c'est moi qui monte les étages, ouais. Bon d'accord, j'étais consentant quand je rentrais dans leur spirale. c'était toujours mieux que d'être invisible. Maintenant je ressens plus rien, je m'intéresse plus qu'à leur physique. Et tous les soirs le diable me rend visite. Fini les grosses gars, trop fausses gamins, j'étais tellement bête. Je veux un Oscar pour chaque film que je me suis fait dans la tête. Merde, avant j'étais un peu froid, maintenant je le suis complètement. C'est trop tard pour combler le manque.
Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Ça sert plus à rien de m'aimer maintenant. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'heure. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant, ouais? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Ça sert plus à rien de m'aimer maintenant.
L'homme pâle, évidemment, vous êtes sur France Inter, on se balade comme tous les vendredis jusqu'à 21h sur la planète genre, dans les contrées LGBT, ce soir aux confins de la famille, celle qu'on voudrait cadrer, celle qui ne cesse de remuer. La manif pour tous a donné rendez-vous dimanche à ceux qui s'inquiètent de la disparition du modèle traditionnel. Nous, on s'interroge, c'est depuis quand déjà un papa, une maman, hein? Depuis quand?
Passons genre.
Moi, je m'appelle Bastien, mamie Aurore. C'est ma grand-mère.
Ta merde.
Et la mariée, c'est ma mère. Elle a eu 3 maris. Résultat, j'ai 6 demi-frères et sœurs ou presque, 4 papas et 4 mamans.
7 enfants, oui. Il y en a 2 à moi, 3 à mon ex-femme et 1 à l'ex-femme. Oh.
C'est quoi cette famille? C'est ce film de Gabriel-Julien Laferrière. Ça pourrait être le titre de notre émission. Ce soir, cette famille d'aujourd'hui, on l'explore. Ce soir avec nos invités, l'historienne Agnès Valk et le sociologue François de Singly. D'ailleurs, François de Singly, est-ce qu'on peut encore parler de famille au singulier? Est-ce qu'on dit encore la famille?
Alors ça, c'est une longue discussion. Les sociologues pensent qu'il faut passer au pluriel, j'ai rien contre. Mais si vous regardez l'école, il n'y a rien de plus diversifié. Il n'y a pas grand-chose entre un lycée professionnel et polytechnique. Et on dit toujours l'école. On fait comme s'il n'y a pas, on ne dit pas ministère des écoles.
D'accord.
Donc c'est un concept. Donc, ouais. D'une certaine façon, je développe une idée un peu paradoxale. C'est que, puisqu'on a inclus de nouvelles formes, on a dit on va passer au pluriel. Comme si les nouvelles formes n'avaient pas le droit, elles aussi, au concept. Pour moi, une famille homoparentale, c'est une famille, donc je vois pas pourquoi je la mets au pluriel, c'est conceptuel.
Néanmoins,
je suis d'accord sur le fait que ça est devenu pluriel, mais d'une certaine façon, la reconnaissance rapide du pluriel est, à mon avis, un peu ambiguë. Une manière subtile de refaire de la hiérarchie.
Pas faux. Aujourd'hui, 3 enfants sur 10, soit quasiment 1 enfant sur 3, ne vivent pas dans un modèle de famille traditionnel. 18% vivent en famille monoparentale, 11% en famille recomposée. Les familles homoparentales étant, elles, extrêmement difficiles à quantifier. Hein. On parle de la PGL parle de 200 000 enfants en famille homoparentale. Il y en aurait 30 000 d'après l'INSEE. En tout cas, on n'a pas encore trouvé l'instrument de mesure.
Non, mais juste, si je puis me permettre. Ouais.
Mais vous pouvez
donner des chiffres,
il
faut s'en méfier. Parce que, par exemple, quand même, un tiers, mettons, approximativement, ou 20%, mais peu importe, des enfants qui sont statistiquement dans les familles monoparentales sont en garde alternée. Il ne faut pas oublier que la statistique a une contrainte forte, qui est un seul logement.
Donc, en fait, ça ne rend pas
compte
de la réalité.
Imaginons que dans un siècle, il y ait un nouveau modèle de couple et que chacun... gardons modèle pour l'instant monogamique, mais chacun vit chez soi.
Ces statistiques ne valent
plus rien. Eh bien, on aurait 100% de célibataires. D'accord. Et 100% de couples.
Donc ça ne marche pas.
Donc, c'est pas...
Alors, sans aller jusqu'aux chiffres, si on prenait une photo à l'instant T des familles françaises...
On a 75%. Du point de vue des enfants, j'ai regardé les chiffres, 75% des enfants vivent au domicile avec leurs deux parents.
Donc ça reste le modèle majoritaire.
Oui, alors c'est pour ça que quand on dit ça s'effondre, je me rappelle, c'est un effondrement, mais bon, beaucoup de choses sont beaucoup moins 64%. C'est une modification qui heurte justement des croyances et tout. Mais sinon, d'une certaine façon, non. Ce qui a changé dans les 75% et dans la statistique, puisque par rapport au sujet, c'est que c'est papa, maman, marié qui était la vraie famille. Or, même dans les manifs, c'est quand même très drôle parce qu'ils ont mis papa, maman, deux enfants. Donc, eux-mêmes, ils sont beaucoup plus modernes qu'ils ne le pensent. Non, non, mais sérieusement, puisque le mot mariage ne figure pas. Or, en fait, l'élément principal, par exemple, dans la statistique, vous avez, on compte, l'Europe ou la France, hein, l'INSEE et tout, les familles traditionnelles, c'est les couples mariés ou non, avec enfants. Il faut quand même savoir qu'historiquement, vous le savez mieux que moi, mais en fin de compte, c'était le mariage qui créait la famille.
Alors justement, j'allais vous demander, Agnès Balk, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, selon vous? François de Saint-Guy disait, attention, le modèle n'est pas en train de s'effondrer. Oui. Pour vous, ce qu'on vit, c'est des micro-secousses ou c'est une révolution premier du terme, c'est-à-dire que les choses s'inversent, les choses...
Alors, les choses ne s'inversent pas du tout. C'est une révolution dans la mesure où ce qui vraiment change, c'est que ces familles qui sont, on va dire, nouvelles, elles sont voulues. Alors que par le passé, il y avait des formes de familles monoparentales, des familles avec même des enfants qui n'avaient pas de parents, etc. Ou même des familles où on avait un seul célibataire ou deux célibataires ensemble. Mais ce n'était jamais voulu. C'était le hasard d'existence qui faisait que les familles étaient en rupture parce que la mort avait...
Et c'est ça qu'on craint ou qui irrite? C'est que finalement, ces gens qui font autrement voilà, choisissent.
Ils choisissent. Ouais. De le faire. Et ce qui irrite, je pense, la majorité, c'est qu'ils ont l'impression, la majorité a l'impression que c'est la minorité qui veut imposer sa loi et qui va, disons, les percuter par ces modèles qui sont des modèles alternatifs.
Si on remonte à l'origine des origines des origines, la famille, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça a quel
ça
fondement?
On
l'a
protéger.
Inventé, pourquoi?
Ça sert ouais. à protéger. Ça protège l'enfant, déjà, et ça protège dans le cadre de société où l'homme a plus, disons, de pouvoir ou de poids que la femme, ça sert à protéger la femme. Ou plus exactement, c'est le mariage qui sert à protéger la femme. Mmh. Voilà. Donc, lorsque on va dans une société où il y a une égalité entre l'homme et la femme a moins besoin d'être protégée et c'est pour ça que bon, elle peut divorcer, voire avoir même un statut, je dirais, social plus important que l'homme.
François de Saint-Guy.
Je suis d'accord sur le terme protégé. Il s'agit de savoir quoi. De mon point de vue, en tant que sociologue, dans l'histoire. En fait, la famille, ça sert à protéger aussi le patrimoine de la lignée, quel
Tout
qu'il
à
soit.
Fait. Oui,
et
oui,
d'ailleurs, une partie
oui.
des pauvres dans les sociétés, c'était justement qu'ils étaient exclus de famille, ils étaient exclus du mariage.
C'est pas vrai du tout en Europe. C'est absolument pas vrai. Ça a été vrai au moment de la révolution industrielle.
Si on prend même au 19e, dans les sociétés grecques rurales, le taux de célibat augmente en fonction de la pauvreté. Non, il augmente même à l'intérieur des familles riches, puisque l'aîné a un taux de mariage beaucoup plus élevé que le 6e ou le dernier et tout. Il faut attendre l'inversion des années 70 pour que tout d'un coup soient les femmes diplômées qui deviennent célibataires.
On va pouvoir y revenir, mais parmi ceux qui vont manifester dimanche, beaucoup se revendiquent catholiques pratiquants. Qu'est-ce que les religions monothéistes ont changé au mariage? Qu'est-ce que l'arrivée de la chrétienté change à ce qu'était le mariage auparavant, à ce qu'était la famille, pardon, auparavant?
Les monothéismes apportent réellement une égalité, enfin en théorie au moins, entre l'homme et la femme, et la volonté de se marier, c'est-à-dire la liberté de se marier. Ça, l'Église catholique a beaucoup insiste sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de mariage forcé. Il y a un mariage monogame, hein, donc ça c'est aussi tout à fait essentiel. Et enfin voilà, si on ne veut pas se marier, on est censé pouvoir dire non. Alors maintenant, la société, comme disait très justement François de Saint-Guy, la société a toujours attribué aux individus des rôles en fonction de leur naissance, de leur rang de naissance. C'est l'aîné qui se marie et pas le cadet. C'est quand on a déjà marié deux filles, pour des raisons d'argent, hein, et de pour pouvoir constituer une famille, il faut de l'argent. Eh bien, ceux qui viennent en dernier, eh bien, ils iront au couvent. Voilà. Donc, on place les gens dans des petites cases en fonction de leur rang de naissance. Donc, et ça, c'est des choses qui ont complètement explosé.
Donc, on cadre. Ça veut dire que l'arrivée du religieux sur ce domaine-là,
mais c'est
de
pas la
famille
religion
comme,
qui cadre,
comme ailleurs,
hein, c'est la société.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de est-ce que ça s'est sorti de nouveaux interdits ou est-ce que ça vous disiez de nouveaux droits, de nouvelles libertés, oui. Mais est-ce que François de Saint-Gly, l'arrivée du religieux, quand la religion se mêle de la famille, qu'est-ce qu'elle apporte à la famille? Qu'est-ce qu'elle modifie dans la famille?
Moi, je suis pas complètement d'accord. Hein.
Mais allez-y, mais vous avez le droit.
C'est-à-dire, oui. Vous avez, pour moi, totalement raison. C'est l'Église catholique, mais à l'époque, c'est elle oui. qui impose le problème du consentement. Pour le, donc, elle, ça, c'est à mon avis, c'est très clair. Moi, qui connais, y compris les textes des papes. Jusqu'aux années 60-70, les élus de manière systématique, le principe d'égalité est quand même très modéré, c'est-à-dire y compris la plupart des sermons au moment du sacrement de mariage étaient la lettre de Saint Paul qui disait faut quand même mieux qu'il y ait un chef et tout. Donc je veux dire, le modèle démocratique par l'Église catholique, qui est quand même une des institutions les plus inégalitaires, puisque par exemple le grade... Parce qu'il faut pas oublier que pour l'Église catholique, le mariage c'est un moindre mal. C'est pour les gens qui n'y arrivent pas, hein. Mais que au départ, non, mais historiquement.
Non. Vraiment, on peut pas dire ça parce que les gens se marient. Donc,
Je parle sur le fait de la théologie. Ceux qui pouvaient auraient dû rester célibataires. Il y a même des historiennes qui ont travaillé sur cette question. Marie-Odile Métral, par exemple. Le mariage, c'est quelque chose dont la fonction, de toute façon, n'est pas forcément le bonheur conjugal. Il est aussi de faire des enfants. Ça, c'est quand même cette fonction. Mais le principe d'égalité homme-femme, j'ai envie de dire un peu vulgairement, ça, franchement, ça saurait. Hein.
Alors, effectivement, on n'y est pas encore dans les années 50, si on écoute cette archivina.
Pensez-vous, monsieur, que la femme doit rester à la maison?
Dans la mesure du possible, oui, c'est souhaitable.
Quand il y a des enfants, oui.
Pour entretenir son ménage.
Un petit peu.
Bon, mange tout quand même. Moi, je pense que c'est le rôle de la femme, du moins lorsqu'elle a des enfants. Je trouve que c'est à elle de les élever.
Monsieur David, vous avez combien d'enfants?
12 enfants.
De quel âge à quel âge?
De 4 mois à 20 ans.
Oui, vous êtes le père le plus méritant de France. Est-ce que vous voudriez avoir d'autres enfants?
Oh non, j'en ai grandement assez.
J'en ai grandement assez des enfants. Il sort d'où ce modèle-là, cette répartition des rôles entre le père qui travaille, la mère qui s'occupe des enfants, et puis surtout l'idée de cette famille nucléaire. Le mot même de nucléaire, ça arrive quand? Quand est-ce qu'on se dit une famille, c'est un papa, une maman, des enfants?
Alors nucléaire, c'est l'invention des démographes des années 60. C'est tout.
L'existence de ce modèle-là comme modèle majoritaire.
Je parle de l'Occident et je parle plutôt des pays du Nord, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, etc. Ça arrive... Alors, certains historiens pensent que dès le 9e siècle, on a ce genre de famille de manière plutôt majoritaire. C'est socialement très, très diversifié. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment la population de base, hein, parce qu'elle ne peut pas s'offrir d'autres modèles. Et puis, ça devient absolument majoritaire au 16e, 17e et 18e siècle. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que les familles ne peuvent pas s'offrir autre chose parce que la démographie est régulée naturellement. Donc il n'y a pas de contraception, parce qu'il n'y a pas, on ne sait pas, hein, réguler, il n'y a pas la pilule, donc c'est, scientifiquement on ne sait pas, et il y a la mortalité qui est énorme. Donc en fait ça se régule quasiment de lui-même, et les familles, c'est donc un père, une mère et quelques enfants. Et pas des familles ultra nombreuses non plus. C'est-à-dire que sous un même toit, on arrive alors à avoir des familles un peu plus nombreuses, bien sûr, que de nos jours, hein. Souvent un papa, une maman et quatre enfants, et encore trois enfants. Jusqu'au 19e siècle, et puis après les choses vont changer.
Est-ce que c'est à ce moment-là, est-ce que c'est au tournant du 19e siècle qu'intervient un facteur dont on n'a pas encore parlé, qui serait, je crois qu'on appelle ça de l'amour, qui fait qu'on se marie parce qu'on s'aime et qu'on vit sous le même toit parce qu'on s'aime? Ce tournant-là, il s'opère quand?
Cette question de l'évidence qu'il faut être quand même amoureux de son mari. Alors, il y a toujours dans l'histoire, heureusement, d'une certaine façon, des tas de contre-exemples. Mais le fait que ce soit un modèle dominant, Hein, en 1911 ou 12, si mes souvenirs sont justes, c'était la question du Petit Écho de la Mode, qui était le grand journal féminin de l'époque, pour toute l'année, avec les lectrices, réfléchir si est-ce qu'on doit être amoureux ou non de son mari.
Ouais. Mais sauf que c'est une question qui fragilise le mariage, pour le coup, parce que...
Oui, non, mais ça,
c'est... À partir du moment où on doit se poser cette question-là pour rester... Pour se marier ça va être et rester marié. Ben,
c'est une des résistances, hein. Non, ouais. Mais je veux dire une des résistances, puisque il y avait une forme d'intelligence, je pense, dans les cours d'amour au XIIe, XIIIe siècle. Si un certain nombre de femmes disaient qu'il fallait mieux pas épouser celui qu'on aime, c'est parce qu'il y a bien l'intuition que le temps de l'amour et le temps du patrimoine, ouais, c'est quand même deux logiques qui n'ont rien à voir. Et donc, on les a divisées. Puis on a eu la naïveté, peut-être au début du siècle, de penser qu'elles pouvaient se cumuler. D'où cette idée étrange, après coup, hein, étrange, pas pour les gens, pas de rétrospective, de penser, j'en ai encore rencontré quand j'ai commencé dans les années 70, quelques grand-mères qui me disaient, j'étais pas très amoureuse, mais je pensais qu'avec plein d'années, ça allait se renforcer. Donc il y avait l'impression, ouais, qui était un modèle, hein, qui est, ouais, pas absurde, c'est que l'institution allait servir de support fort à l'amour. Aujourd'hui, même une partie des gens qui se marient ne sont pas forcément convaincus.
On parle depuis tout à l'heure du modèle inégalitaire, enfin de la consécration des inégalités hommes-femmes à l'intérieur du mariage. Est-ce que c'est l'émancipation des femmes dans les années 70 qui porte un premier coup à l'institution Agnès Balck?
Oui, très certainement, parce que effectivement, la femme se met à travailler, à avoir l'autorisation d'avoir un chéquier, fin des années 50, sans l'autorisation de son mari, et finalement, elle acquiert une indépendance financière. On en revient toujours à des questions d'argent, de patrimoine, et c'est ce qui lui permet de sortir éventuellement du mariage. Hein. Et donc, c'est à ce moment-là que
les divorces...
Et
ce droit, elle le prend, quoi.
Elle le prend parce que la société change, on va vers une société de salariat. Avant, on était dans une société qui était une société où les gens travaillaient chez eux. Donc, la cellule familiale était aussi une cellule de production, une cellule économique. Et les conditions avec la révolution industrielle au 19e siècle font que le travail change. Et les femmes sont amenées à sortir de chez elles pour aller travailler à l'extérieur. Alors, ça commence par les ouvrières.
Où elles font des rencontres, où elles tombent amoureuses.
Oui,
non, mais ça,
ou
ça
pas,
joue,
voilà, ça peut
ça
jouer,
joue, effectivement. C'est-à-dire qu'elle sort du foyer physiquement.
Physiquement.
Non, mais c'est surtout, voilà, que quand le divorce, voilà, c'est d'ailleurs l'erreur, entre guillemets, de la Révolution française, puisqu'à l'époque, justement, la société n'est pas salariale. Mais en fait, dans le divorce, la femme, quand elle quitte son mari, elle quittait aussi, entre guillemets, son patron, dans une logique agricole. Donc, oui. Aujourd'hui, on peut faire l'un
peut
et l'autre, mais plutôt
sans,
séparément.
Voilà, sans perdre son
patron. Donc, voilà, c'est quand même un avantage de salariat.
Et à partir des années 70, les divorces se simplifient, leur nombre s'amplifie. Voilà que la famille...
75.
Attaquée, pardon, 75. Mais j'ai dit les années 70. Voilà, ah bon. Vous mégotez. Voilà que la famille attaquée au centre par les femmes voit débouler de la marge de ceux qu'on n'appelle pas encore les mouvements LGBT. Il y a tout juste 20 ans, à l'automne 99, le pacte civil de solidarité est voté. Il permet une première forme d'union et de reconnaissance pour les couples de même sexe. Il avait, on s'en souvient, déchiré la société française pendant de longs mois, déclenchant du même coup un vent d'homophobie assez glaçant. Les ancêtres de la Manif pour tous descendait déjà dans la rue et déjà au nom d'une famille traditionnelle qu'il fallait protéger. Vous allez entendre, entre autres, Nelly Olin et Bruno Maigret, avec au milieu un journaliste assez visionnaire.
Le texte sera discuté au Sénat au mois de mars. Certains sénateurs jurent qu'il ne passera pas.
Il y a des priorités en France. Assurer la sécurité des Français, s'occuper de la famille, faire ce qu'il faut. Et toutes ces lois imbéciles qui ne servent à rien, il faut les mettre au placard. Et je peux vous assurer qu'on s'arrangera pour qu'elles y aillent définitivement.
Société qui ne se fonde pas sur l'individualisme et l'égoïsme, mais qui se fonde sur la générosité et le respect des personnes et des familles.
Alors on est là pour manifester contre le projet de loi qui est pour un mariage homosexuel, parce qu'on ne voit pas l'intérêt de ce mariage, qui va coûter énormément d'argent à toutes les familles.
La manifestation montre que la France croit un certain nombre de valeurs et qu'elle veut être entendue. Voilà, c'est tout.
Nous sommes ici pour nous battre contre cette loi de Pax que nous réfutons totalement car elle vise à créer un mariage bis auquel on va conférer demain les mêmes avantages qu'au vrai mariage, ce qui va détruire la famille.
Et voilà donc Bruno Maigret, sorte de vestige du passé qui tout à coup flotte dans ce studio. La loi a donc fini par passer. Est-ce qu'elle a détruit la famille? Qu'est-ce que le Pax a modifié dans notre rapport au couple et à la famille, Agnès Balck?
Pas grand chose finalement. Ça permet simplement parce que visiblement le PACS a été utilisé plutôt par des jeunes couples hétérosexuels. L'idée c'était de rentrer pour eux, je pense, de rentrer progressivement dans le mariage. En fait, le mariage intervient quand l'enfant arrive, mais il y a une période de latence où les couples souhaitent une certaine stabilité et la trouvent à travers une sorte d'officialisation de leur union. Et souvent, l'enfant arrive et puis au bout du premier enfant ou du second enfant,
on est quand même à 60% de naissances en mariage qui ne se...
Oui, effectivement.
Oui, mais on pensait que ça allait passer comme ça.
Voilà. Et mais ça se passe exactement comme ça. L'enfant arrive. La statistique montre que le mariage se fait quand l'enfant...
Elle se fait forcément après l'enfant. Parce
qu'on voilà, c'est ce que je dis.
Ça paraît une absurdité.
On va pas
mais
pouvoir se battre
pour ceux qui se marient.
Oui.
Mais moi, je connais, statistiquement, il y a quand même des tas de gens qui se marient pas.
Voilà, exactement.
Alors, pour l'instant, c'est 4 PACS pour 5 mariages. François de Singly, qu'est-ce que les couples vont trouver dans le PACS qu'ils ne trouvent pas dans le mariage?
Non, c'est le pour une part,
parce que il y a des travaux très précis.
C'est pour certains, c'est devenu presque des fiançailles. L'avantage du PACS, c'est qu'on peut en faire.
En faire plein, et puis on peut les multiplier.
Non, mais on peut faire ça. Il y a quand même. D'ailleurs, c'était quand même très drôle parce que quand il s'agit de défendre le mariage, comme on a entendu là avec Maigret, d'un seul coup, il dit on va quand même pas donner les avantages. Tout d'un coup, là, le mariage devient d'intérêt. Mais bon, donc ça voudrait dire que les gens se marient par intérêt. Puis sous-entendu, on va quand même pas le partager. Mais ce que je voulais dire, c'était que non, je pense que dans une conception à partir des années 70 ambiguë que nous avons. Je dis nous parce que beaucoup sur le rapport à l'institution, qui est pas un rejet, mais bon, des fois c'est un peu trop lourd et tout. Le PACS a été perçu, notamment chez les hétérosexuels, éventuellement comme un pré-mariage, mais aussi comme des possibilités d'avoir une famille sans que et continuer à avoir cette famille sans avoir le sentiment exactement du même ordre. Et par exemple, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de mots, on dit mon épouse, mon conjoint, enfin, etc. C'est très, quand on voit les termes d'adresse pour les concubins, c'est volontairement qu'ils sont dans l'embarras, d'une certaine façon, que c'est pour montrer qu'ils ne sont pas enfermés. Donc, il y a une revendication d'une légère clôture, mais qu'on pourrait transgresser.
D'un mot rapidement pour conclure sur cette question-là. On est 20 ans après le PACS et on est à 2 jours d'une manifestation où on va entendre le même genre de slogan finalement, c'est-à-dire la mort de la famille, c'est-à-dire c'en est fini, la famille s'est effondrée à cause des communautés LGBT et accessoirement à cause des féministes aussi. Vous en pensez quoi? On en est où là?
De l'écroulement de la famille?
Ouais.
Non, la famille reste avec des formes et des formes de légalisation qui changent. Voilà.
Plus libre, plus souple.
Non,
non,
pas
mais ça
forcément.
C'est ambigu, hein, parce que tous les gens, par exemple, qui sont dans des procédures d'adoption, qui quand même s'étend. Par exemple, ces procédures d'adoption, vous passez entre guillemets des examens pour voir si vous avez le droit d'adopter, ce que ne faisait pas auparavant. Donc, il y a d'autres types. Sociologiquement, on pense qu'en fait, un certain nombre de contraintes ont disparu, c'est à mon avis incontestable, mais généralement, le social réinvente d'autres types de contrôles. Donc, je ne pense pas qu'on soit dans des sociétés légères du point de vue du contrôle social. Ce matin, là, j'intervenais, je veux dire, c'est des centaines de travailleurs sociaux qui sont dans chaque département pour aussi contrôler, entre guillemets, c'est pas une critique, mais le bon fonctionnement, vérifier si les parents éduquent bien et tout. Avant, le papa et la maman n'étaient pas vraiment contrôlés par des... Donc, oui. On fait signe pour vous qui ne voyez pas l'image que je dois me taire.
Oui, François, c'est-à-dire que je vous demande un mot, vous m'en donnez 4442 qui sont tous mieux les uns que les autres. Enfin, le temps court et je suis obligée d'enchaîner. Et paf, je reprends la main et je vous dis que moi, à force d'entendre parler de manif pour tous et de modèles traditionnels, j'ai comme une envie de new wave et de bouffer de synthé, d'intro long comme le bras et d'un petit bronze qui bite, de voix qui grimpe dans les aigus, d'envie d'années 80. Vous l'avez reconnu ce son-là, derrière moi? Allez, je me tais, je vous laisse kiffer. Small Town Boy, maxi tube de l'année 84, repris, on s'en souvient, dans la géniale bande-son du film non moins génial de Robin Campillo, 120 battements par minute, et elle collait parfaitement à leur arrivée en studio. Aux côtés du sociologue François de Singly et de l'historienne Agnès Valk, nous avons le plaisir d'accueillir maintenant la rédactrice en chef web des Un Rock, notre partenaire Marie Kirchen, et l'humoriste Laurent Sciamma. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Et bienvenue. Avec vous, on parlera de MeToo et de ses effets, des langues qui se délient, des oreilles qui se bouchent, des plaisanteries de plus ou moins bon goût. C'est votre actu de la semaine à tous les deux. On la parcourt avec vous qui nous écoutez. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur France Inter.
France Inter, passons genre.
Sexual harassment allegations against movie mogul Harvey Weinstein making some Democrats uncomfortable over the years. On est au tout début du mois d'octobre 2017, il y a quasiment deux ans jour pour jour. Le New York Times et le New Yorker révèlent que 12 femmes portent plainte pour agression sexuelle, viol ou harcèlement contre Harvey Weinstein. Il est licencié, arrêté, inculpé. C'est une tornade à Hollywood et puis bientôt des avis de tempête dans le monde entier à coups de hashtag MeToo. Et balance ton porc, notamment. Marie Kirchen, si aujourd'hui vous revenez sur cette affaire, c'est à cause, ou plutôt grâce, à une enquête du New York Magazine. Pour la première fois, on s'intéresse à l'impact du mouvement sur les victimes de harcèlement. Et pas sur les potentiels coupables.
Exactement. En fait, le New York Magazine vient de publier une très grosse enquête qui s'appelle « Was it worth it ?» Est-ce que ça valait le coup ? En fait, il compile 25 témoignages de femmes et de quelques hommes qui ont été victimes de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle et qui ont fait le choix d'en parler publiquement, c'est-à-dire soit dans la presse, soit en portant plainte, soit parfois les deux. Et en fait, l'idée à l'origine de l'article, c'est vraiment qu'on évoque, comme vous le disiez, toujours les conséquences des articles, comme ça qu'on appelle maintenant article MeToo, enquête MeToo. On évoque toujours les conséquences sur les hommes accusés. Il a perdu son travail, le pauvre, sa réputation, etc. Et finalement, on réfléchit pas à l'impact, au coût que ça a pu avoir pour les victimes, pour celles qui ont parlé.
Et là, qu'est-ce qu'il en ressort ?
C'est assez dur. Il y a un texte qui a introduit l'enquête. Donc c'est la journaliste Rebecca Traister qui compare ces femmes et ces hommes aux soldats qu'on envoie en première ligne, parce qu'on sait qu'ils vont essuyer les plâtres. En fait, on les sacrifie. Mais l'idée, c'est que c'est pour mieux gagner la guerre. C'est vraiment pour leur cas vont être des catalyseurs qui vont permettre à nos sociétés d'avancer sur ces questions-là.
C'est vrai que c'est assez glaçant, oui. Et il y a une enquête, donc l'enquête fait 37 pages, énormément de témoignages. Est-ce qu'il y a des dénominateurs communs dans ce qu'elles disent, ces victimes ?
Ouais, alors c'est beaucoup. Alors, déjà, tout bêtement, le fait d'en parler publiquement, ça a un coût de manière intrinsèque, parce qu'en fait, ça veut dire que tout le monde est au courant, quand vous en parlez à vos proches, à votre père, à votre mère, à vos voisins. Il y a cette femme qui raconte qu'elle a dû en parler à ses enfants de 7, 5 et 3 ans pour leur expliquer ce qui se passait. Donc il y a la réaction des gens qui est souvent inappropriée, qui peuvent blâmer la personne, faire des remarques, par exemple, lui dire au moins, t'as pas été violée dans un cas où c'est juste une agression sexuelle.
Vrai que c'est moins grave.
Il y a des femmes qui racontent qu'elles ont, je dis les femmes parce qu'il y a aussi des hommes, mais c'est majoritairement des femmes, des femmes qui racontent qu'elles ont perdu des amis, une dame qui raconte qu'elle a perdu son petit copain parce que voilà, ils n'ont pas su comment bien réagir. Il y a aussi des menaces de représailles. Cette femme qui explique qu'elle a eu des énormes attaques de panique parce que l'avocat de l'homme qu'elle accusait le menaçait, disait cette fois ça va être la guerre. Donc il y a un coût émotionnel très très fort, mais il y a aussi un coût économique. Des femmes qui ont perdu leur emploi parce qu'elles avaient dénoncé du harcèlement sexuel dans le cadre du travail. Maintenant qu'elles n'arrivent plus à retrouver du boulot parce que quand on tape leur nom, on retrouve des articles et donc les nouveaux employeurs n'ont pas envie de les embaucher. Voilà. Il y a ce cas, cette femme qui a perdu son travail, qui a eu du coup du mal à payer son emprunt, qui s'est retrouvée avec l'électricité coupée et qui a dû demander à son ex-mari d'accueillir leur enfant. Et donc maintenant son fils habite à 8 heures en voiture de chez elle.
C'est hallucinant. Et effectivement, c'est extrêmement rare comme enquête, voire totalement inédit.
Ça n'a jamais été fait, en fait, à ce point-là.
Quel est le regard de l'historienne et de la sociologue que vous êtes, Agnès Valk et François de Singly, sur les deux ans qu'on vient de passer ? C'est-à-dire que on parle d'une guerre, elle est clairement loin d'être terminée. Peut-être la même chose que ce que je vous demandais tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que c'est un petit soubresaut ? Est-ce que là, on l'a dit il y a deux ans, on a dit c'est une révolution, ça y est. Là, en deux ans, on n'a pas vu énormément la révolution n'a pas encore coupé énormément de têtes. Non pas que je le souhaite, je ne suis pas sanguinaire, mais enfin, votre mesure de l'impact à vous, de l'impact MeToo, pour vous, il se passe quoi ?
J'ai envie de dire, par rapport à la guerre, quand on prend, mettons, la guerre de 14, si on veut, elle arrive pas du jour au lendemain, elle arrive du jour au lendemain, mais sur le fond, il y a des négociations entre la guerre 39 aussi et tout. Là, moi, la première chose que je retiens là en tant que POC sociologue, c'est que même si on savait tout ça et tout, à un moment donné, ça prend. Non, mais c'est-à-dire, et puis ça prend, et donc ça devient quand même quelque chose. Et c'est aussi donc pour moi, c'est vraiment la caractéristique du mouvement social. Les Gilets jaunes non plus, bon, on savait tout ça, les travailleurs pauvres, tout le monde on lit ça, puis un jour ça pète. Ouais. Et donc ça, c'est, moi j'ai toujours à la fois fasciné, je m'excuse parce que fasciné par le fait que c'est ça la merveille du social, c'est que ben oui, les gens étaient dominés, la domination masculine. Puis à un moment donné, quand même, il y a des explosions. Donc ouais, moi, c'est mon premier. Alors que ouais. C'est pas des effets forcément, puis des effets inégaux et tout, mais quand même, moi je pense que, quand même que c'est qu'il y a, pour moi, il y a un avant et un après, même si le mot révolution, bon.
Si, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu, on parlait du salariat tout à l'heure, que c'est un petit peu une étape qui va permettre de clarifier les relations dans le travail. Parce que le problème du salariat, c'est que ça a rendu les travailleurs, enfin la société du travail mixte. Et ça n'a jamais été très très bien géré dans l'histoire en fait. Hein. Et je pense que le 19e siècle a été une période très compliquée hein, pour les femmes, notamment les ouvrières, les domestiques, etc. Et donc, il faut beaucoup de temps pour qu'un jour, on essaie de commencer à réfléchir sur ce que sont finalement les relations hommes-femmes ou les relations intimes dans le cadre du travail.
En France, on a retenu une formule, la parole se libère, on l'a entendu partout, débitée quasiment d'un trait à force d'être répétée. Vous, Marie Kirchen, vous ne l'adorez pas cette formule, pourquoi ?
Mais je ne l'aime pas du tout, parce qu'en fait, les femmes parlaient avant. Ça donne l'impression que tout d'un coup, elles sont réveillées il y a 2 ans, alors qu'en fait, elles parlaient avant, mais on les écoutait pareil.
Elles avaient des cordes vocales ?
Eh oui !
C'est incroyable !
Mais incroyable ! Mais par contre, nous, on n'avait pas trop d'oreilles, visiblement, parce qu'en fait, souvent, on ne les écoutait pas, on ne donnait pas suite. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve là dans l'enquête, c'est que souvent, les femmes ont d'abord parlé à un supérieur hiérarchique, par exemple, dans le cas du travail, qui n'a rien fait, et donc c'est parce que rien n'a été fait qu'elles ont dû ensuite ou porter plainte ou contacter la presse.
Et les réseaux sociaux, évidemment, aussi. Je Exactement. Signale que dès la semaine prochaine, ici, dans Passons Genre, on va reprendre à la loupe ces 2 années avec, dans notre ligne de mire, nos représentations sur le viol, nos représentations, pardon, du viol. Attention au scoop, elles n'ont pas bougé. Tellement pas d'ailleurs qu'on continue à trouver ça drôle, le viol. Le 24 janvier dernier, ce restaurateur de Rueil-Malmaison avait écrit sur son ardoise à l'entrée de son local ceci. Mon secret séduction tient en 3 mots, gentillesse, humour, bagou. Si ça ne marche pas, je me contente des premières lettres, GHB, psychotrope autrement connu sous le nom de drogue du violeur. Comme il le faisait tous les jours, le restaurateur photographie l'ardoise et la poste sur son Facebook. La photo est repérée, partagée 6000 fois en quelques heures et finit par arriver dans le viseur du collectif féministe contre le viol, pas de peau. Résultat, une plainte pour incitation au viol. Le prévenu a comparu mardi devant la justice. Il a plaidé pêle-mêle l'humour, la liberté d'expression et même une façon de faire de la prévention contre le GHB, comme quoi son humour n'a pas de limite. Vous, Laurence Yamas, ça vous a moyennement convaincu, hein, cette ligne de défense. Pourquoi ?
Oui, complètement. Ouais, c'est toujours pareil. C'est une façon de se déresponsabiliser en disant que ça va, c'est juste pour rire. Mmh. Et du coup, on prend pas la mesure de qu'est-ce qu'on est en train de dire, quel message on fait passer. Par ailleurs, en plus, dans l'espace public, hein, c'est pas juste quelqu'un qui fait une mauvaise blague dans une fête de famille. Chacun fait ce qu'il veut chez soi. Mais par contre, là, on est dans l'espace public. On est dans vraiment le vivre ensemble. C'est un acteur de la communauté, du collectif. Et du coup, c'est le message qui décide de donner comme ça au monde. Sans penser à qui le lit.
Alors, comme le restaurateur a essuyé les foudres des réseaux sociaux, son avocate demande aujourd'hui 5000 euros au titre de préjudice moral. Oui, je vois Agnès Vache lever les sourcils d'un air étonné, mais oui, oui. Et 3500 euros pour frais de justice. Eh ben oui, voilà. Ben,
bien sûr.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 novembre, mais l'avocate prévient attention à ne pas faire descendre la liberté d'expression au rang de la parole policée. Ça n'est pas ça, la France. Donc le revoici, le revoilà. Hein, la formule qu'on connaît bien, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rire, etc. etc. C'est pareil, c'est caractéristique de l'époque et à ce moment-là, ça veut dire que c'est un petit peu vrai ? Ou est-ce que c'est un refrain qui revient à chaque fois que, je sais pas, que soit que les féministes sortent du bois, soit que la communauté LGBT sort du bois, c'est quoi ? Il se passe quoi là ? C'est vrai qu'on peut
pas dire ? J'aurais voulu dire quand même, c'est un peu de l'humour là aussi, mais dans les fêtes de famille, on n'est pas forcément obligé de faire de la pub pour la drogue du violeur. Vous disiez, c'est grave parce que c'est dans l'espace public, mais on peut lire dans une fête de famille.
Bien d'accord avec vous.
Non, mais j'ai bien compris.
C'est juste que je voulais dire, j'ai pas très vite la pensée. Chacun pense ce qu'il veut. Par contre, quand il s'agit de le partager, c'est une autre histoire.
Non, puis il a raison. Il y a effectivement le fait de partager sur Facebook. Il y a 6000 partages en quelques heures. Tout à coup, ça prend aussi cette ampleur-là parce qu'il y a
les réseaux sociaux. C'est aussi quand même fascinant. Moi, ce qui me fascine, quand même, le fait que, d'une certaine façon, cette police, moi qui ne me gêne pas, je le vois parmi les collègues masculins et tout, Thierry, il en faut quand même beaucoup de rappels à l'ordre pour qu'il commence à faire un peu attention. Là, le type, je pense qu'au premier degré, il était sûrement sûr de lui. Et il comprend pas. Non, mais sûr de lui au sens... et tout. Donc, je veux dire, ben oui, il faut bien leur dire.
Agnès Wahl.
Et une fois, non, mais deux, c'était bien.
Moi, je trouve que, pour une fois, le tribunal juge la bêtise.
Oui.
Donc, c'est rigolo.
Alors, vous, Laurent Sciamma, vous êtes quand même un drôle de bestiau parce que vous émergez justement en plein mouvement MeToo, mouvement qui est au contraire une source d'inspiration pour vous. On vous dit humoriste, féministe, ça vous va comme adjectif, ça?
Oui, ça me va. Étant un garçon, j'aime bien. Moi, souvent, je dis pro-féministe. Je sais qu'il y a plusieurs écoles, moi, je dis ça. Je suis un homme pro-féministe.
Parce que la source de votre engagement, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites que c'est vous allez vous engager sur ce terrain-là?
Ben moi, je me suis engagé sur plein de terrains sur scène et avant d'ailleurs aussi toujours autour de l'humour, toujours en utilisant la comédie et finalement en essayant d'inventer un peu une nouvelle comédie de gauche. Et donc, il s'engageait sur toutes ces questions-là et notamment aussi du coup beaucoup la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et à un moment donné, je sentais que j'écrivais beaucoup sur ces sujets-là parce qu'ils agitaient d'autant plus l'époque que par ailleurs il y avait aussi un vrai déficit de parole masculine sur ces sujets-là et que
il fallait y aller
et qui plus est en les tournant en dérision pas mal.
Eh ben on va écouter tout de suite un extrait de votre spectacle Bonhomme.
La dernière fois je me dis ça se trouve on va entendre des nouvelles histoires, tu sais. Des histoires next gen, c'est comme des brèves, de presse locale, mais d'un genre nouveau, tu sais, en mode genre, il lui explique un truc qu'elle savait déjà, elle le mord à la joue. Trop bien. Il lui coupe 5 fois la parole lors d'un premier rendez-vous amoureux, elle met le feu à sa doudoune. Je veux lire cet article, sérieux, il est en version abonnée, je m'abonne. Juste pour lire le témoignage de la meuf, quand il est parti aux toilettes, j'ai vu qu'il y avait un photophore posé sur la table, je me suis dit, on y va. Par ailleurs, je tiens à préciser qu'il portait une doudoune sans manche. Donc bon, zéro scrupule, sérieux. Zéro scrupule.
Voilà, preuve qu'on peut rire de pas mal de choses, en fait. Hein. En tout cas, avec vous, votre point de vue, Laurent Sciamma, c'est de se mettre du côté des femmes et de regarder les hommes. Vous avez dit à l'Obs, choper un rire avec le mot pute, c'est problématique. Pourquoi?
Parce que c'est ce qu'on appelle « cheap laugh ». En anglais, donc un rire facile, et parce que du coup c'est quelque chose, c'est comme des habitudes, et puis il y a un truc de vulgarité, il y a un truc, et puis aussi c'est, pardon, je vais encore pas utiliser des mots anglais, mais c'est ce que dans la comédie aux États-Unis on appelle punch up ou punch down. Donc ça veut dire, est-ce qu'on fait un coup bas ou est-ce qu'on fait un coup en haut, et donc de qui on se moque finalement. Et donc à un moment donné, utiliser le mot pute en plus, par exemple, pour parler de quelqu'un d'autre et dire les écureuils, c'est vraiment des grosses putes, c'est vraiment désolé, parce que là d'un coup, bien sûr, parce que c'est marrant de rire des écureuils.
Un écureuil.
Là d'un coup, ça devient très problématique parce que les travailleuses du sexe n'ont rien demandé et ça n'est pas censé devenir un truc comique, quoi, en fait.
Les écureuils n'ont pas demandé non plus, hein.
Va falloir que je m'excuse auprès des écureuils.
Ce qui fait conclure au journaliste de l'Obs qui vous interviewait, Laurent Sciamma est l'homme hétérosexuel de demain.
Wow, c'est beaucoup ça.
Elle, pour le coup, c'est la chanteuse d'aujourd'hui, jeune prodige qui est en un EP et un album bat absolument tous les records, numéro 1 dans 15 pays en même temps à seulement 17 ans, c'est Billie Eilish et ça, oui, c'est définitivement notre genre.
My Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want
need you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team.
All the good girls go to hell. Et vous savez quoi? Ben, je suis pas loin d'être d'accord.
Pas son genre. Julia Foyce.
Allez, c'est le moment de rêver, d'imaginer, c'est le moment d'inventer ce que pourrait être le féminin ou le masculin de demain, au-delà de Laurent Sciamma, je veux dire, et de ses écureuils qui font le tapin. C'est l'un des effets MeToo, ouvrir une brèche dans le cadre, flouter les frontières, proposer de nouvelles façons d'être un homme, d'être une femme en toute liberté et en toute subjectivité. Alors Agnès Wahl, quand on vous a demandé de venir avec un objet qui racontait votre féminin, vous êtes venue avec quoi, vous?
Avec un petit carnet.
Ouais.
Pour écrire.
C'est la Pompadour qui est dessus?
Non, pas du tout, mais c'est n'importe quel carnet. Non, non, c'est la Duchesse de Polignac. Je l'aime pas particulièrement, hein, mais elle est jolie, il y a Vigier Lebrun.
On n'est pas fan de la Duchesse de Polignac.
Moi, j'aime pas trop, non. Mais c'est pas grave, mais c'est le petit carnet qui est important.
Oui, pardon.
Voilà.
Je vous fais digresser.
C'est parce que ça crée une intériorité. Quand la femme a pu lire, a pu écrire, elle a pu vraiment se devenir elle-même. Et donc, je trouve ça très, très beau, cette idée d'écrire, de conserver des traces de sa vie. Ça peut être le carnet intime que les petites filles et les petites demoiselles tenaient par le passé. C'est quelque chose vraiment qui permet de construire sa personnalité.
Donc, merci, Agnès Wahl.
On peut s'inventer sa féminité.
François de Singly, amateur de pirouettes, vous nous avez apporté quoi? Alors attention, nous avons un striptease en direct de François de Singly qui est en train de déboutonner sa chemise rose, bouton par bouton. Je vois le regard très inquiet de Marie Kirchheim qui se dit qu'est-ce qui se passe.
Oui, moi aussi je suis inquiet. Hein, mais... première
donc,
fois c'est toujours difficile.
On se dessape, il y avait quand même une veste avec la Légion d'honneur et là nous avons Gender Free Zone et ça c'est donc votre t-shirt.
Parce que moi, mon utopie, c'est pas forcément de masculin, puis un jour je serai féminin. Enfin bon, je suis pas forcément pour l'alternance. C'est pour moi, c'est une variable, mais dont je rêve qu'elle soit la variable genre, soit une variable secondaire dans mon idée. Pour moi, je suis pas d'abord un homme. Je suis François de Singly, mais bon. C'est masculin, on fait avec. Mais
et c'est avec une chemise rose, un t-shirt Gender Free Zone et une veste sur laquelle il y a quand même, je le répète, la Légion d'honneur. Si ça, c'est le masculin de François de Singly.
Et les garçons, on pourrait rendre hommage à Marguerite qui a perdu sa Légion d'honneur parce qu'il avait écrit Les garçons.
Eh ben voilà, on lui rend hommage ce soir. Allez, on termine là-dessus. Johanna Gabric était à la technique ce soir. Marie-Annick Rimbaud à la réalisation. Romy Engels à la coordination, la programmation de cette émission. Thierry Dupin a signé notre programmation musicale. Merci à toute l'équipe. Merci à vous d'être venu nous voir. Rhabillez-vous, François. Agnès Wahl, votre livre « Où va le mariage ?» est édité chez Fayard. François de Singly, à venir en novembre aux éditions de l'Aube, un essai sur les chemises. Non, l'individualisme est un humanisme, et ça c'est une réédition de votre dernier livre. C'était une grande joie de vous retrouver tous les deux, vraiment, sincèrement, de vous accueillir. Laurent Sciamma, bienvenue dans la bande Pas son genre. Votre spectacle, Bonhomme, c'est au Café de la Gare à Paris, tous les lundis à 21h et jusqu'au 30 décembre et à suivre une tournée en région. Ça, c'est une très bonne nouvelle.
Content.
Marie Kirchen, sur le site des In Rock en ce moment, une femme.
Oui.
Une injustice et un quasi mea culpa. Qu'est-ce que c'est que ça?
Vous parlez de notre article « Pourquoi Virginia Woolf n'a-t-elle jamais eu le prix Nobel ?»
Ouais.
Bah, effectivement, il y a la Maison internationale des littératures Passaporta qui vient lui décerner le prix Nobel le 1er octobre pour un peu réparer cette injustice. Parce qu'effectivement, elle ne l'a jamais eu.
Et c'est ce dont vous parlez donc dans cet article qui est à lire sur lesunrock.com. On se dit à très bientôt, Marie Kirschen, tous les mois dans Passons Genre, vous serez toujours la bienvenue. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Juste après le flash, vous avez rendez-vous, vous le savez, avec Laurent Goumard et son côté club. Rendez-vous 100% musical, 100% live. Je vous souhaite un très très bon week-end et allez, même une bien bonne semaine.